Docteur Joitel, enchantée. Pour ceux qui étaient là l'année dernière, on avait déjà pu échanger au sujet de la démarche sens. Et j'étais venue avec Audrey Boclet vous présenter le retour d'expérience post-Covid. Donc je suis ravie de voir qu'on sort un tout petit peu de cette crise. Aujourd'hui, on va vous présenter avec Magali le guide Tous aidants. Je vais laisser Magali en parler beaucoup mieux que moi. Moi, je vais faire la première partie, c'est-à-dire vous reparler de la démarche sens. Alors, de quoi on parle? On l'avait évoqué l'année dernière, mais pour ceux qui n'étaient pas là, je préfère refaire un petit récapitulatif. C'est quoi la démarche sens? La démarche sens est une démarche qui se déploie au sein de LNA Santé. Pour rappel, LNA Santé, c'est plus de 80 établissements, dont 48 médico-sociaux. Médico-sociaux, c'est EHPAD, dans lequel on évolue. Cette démarche, elle a pris corps il y a à peu près un an et demi. En tout cas, le Covid a aidé à rendre une dynamique un peu plus importante. Avant, c'était un projet, c'est devenu une démarche prospective. C'est une démarche qui vise à améliorer et faire évoluer l'accompagnement auprès de nos résidents atteints de pathologies neuroévolutives, maladie d'Alzheimer, maladie apparentée, mais également de leurs proches. Elle vient enrichir la singularité d'un modèle qui était déjà bien inscrit au service de la qualité de vie, bien évidemment, des résidents accueillis. Et cette démarche, elle s'inscrit dans l'ambition de LNA d'être demain reconnue comme expert de l'accompagnement de nos pathologies neuroévolutives, notamment la maladie d'Alzheimer, tout en sachant qu'aujourd'hui, plus de 65%, je dirais même quasi 70% de nos résidents sont atteints de pathologies neurodégénératives au sein de nos établissements. C'est un vrai enjeu. Alors cette démarche sens, je la copilote. J'ai la chance de la copiloter avec Audrey Boclet, qui est directrice d'établissement. On la copilote depuis 2 ans et on a décidé de la déployer autour de 6 briques que je vais pouvoir vous décliner. Alors la première brique, c'est le parcours de vie, parcours de soins. Parcours de vie, tout le monde en entend parler. C'est quoi? C'est les bons soins par les bons professionnels au bon moment, au bon endroit. Donc c'est pouvoir accompagner, quel que soit le stade de la pathologie, quels que soient les troubles du comportement, le résident au sein de nos établissements médico-sociaux, mais demain également peut-être sur la partie domicile avec l'accueil de jour, avec les hébergements temporaires qu'on a déjà, mais peut-être demain avec les plateformes, les pas de plateforme dont tout le monde parle. Deuxième thématique abordée dans cette démarche est la place des aidants, et là on va pouvoir en discuter, c'est le pourquoi notre intervention aujourd'hui, c'est cette grosse question de quelle est la place des familles au sein de nos organisations professionnelles. Troisième thématique, les interventions non médicamenteuses. Alors c'est quoi une INM, hein? C'est une intervention, un programme d'activité, on en a parlé tout à l'heure, mes collègues ont pu en parler sur l'intérêt de la prévention, des activités dites de stimulation, de prévention primaire ou secondaire, à savoir de l'activité motrice, l'activité à visée cognitive, toutes ces interventions sont un vrai soin et doivent être considérées comme telles. Cette démarche sens, elle s'articule aussi grâce à un pôle de recherche et une cellule de recherche et un pôle d'innovation. Donc, elle s'active autour des questions des innovations numériques, mais pas que, innovation organisationnelle, pour faire que demain, on améliore la qualité de nos accompagnements. Cinquième thématique de cette démarche, et ça, c'est une grosse question qu'on va aborder à partir de 2022, c'est la question du lieu de vie. Vous entendez souvent parler du malade d'Alzheimer qui a nécessairement besoin de se sentir comme à la maison. Est-ce qu'il est chez lui en EHPAD? Et c'est toutes ces questions qu'on devra aborder. Comment l'architecture peut être finalement un soin à part entière et comment l'environnement architectural peut aussi apaiser certains troubles? Et enfin, la dernière brique, ou en tout cas thématique abordée de cette démarche, c'est le développement des compétences, parce qu'on ne peut pas faire tout ça si, de fait, on n'a pas des collaborateurs formés. Donc, c'est la nécessité de monter l'ensemble des collaborateurs dans la compréhension de la pathologie. Donc, voilà en gros la démarche. Je la résume très brièvement. Pour conclure, la démarche, elle a la volonté d'être présent, c'est-à-dire que LNA Santé soit présent à toutes les étapes de la maladie, à toutes les étapes du parcours, que ce soit demain à domicile, aujourd'hui sur l'accueil de jour, les hébergements temporaires, mais aussi aujourd'hui dans nos établissements, à quel que soit le stade de la maladie, à des stades modérés, voire très évolués, jusqu'à un accompagnement de soins palliatifs, ce qui est notre travail du quotidien. La place des aidants, on va revenir tout à l'heure dessus puisque c'est le thème d'aujourd'hui. Les interventions non médicamenteuses, l'ambition de cette démarche est de faire que l'intervention non médicamenteuse qu'on appelle INM, que ces INM soient une proposition incontournable de soins, que demain nos résidents puissent systématiquement pouvoir bénéficier de ces interventions de prévention, motrices, cognitives, psychosensorielles, sociales. On parle beaucoup de médicaments, mais on voit bien que finalement, sur le curatif, on n'a pas grand-chose aujourd'hui. Seulement aujourd'hui, les études, elles le prouvent. Sur des actions de prévention, on peut être efficace sur la progression de la maladie. Et c'est l'enjeu de cette démarche. Recherche innovation, c'est participer activement aux enjeux et aux débats autour de ces maladies neuroévolutives. Et c'est aussi participer au congrès, de faire partie des colloques des experts, échanger sur tous les progrès de la recherche. Lieu de vie, on en a parlé. L'environnement comme une intervention, comme un soin non médicamenteux. Et enfin, l'objectif et l'ambition de la démarche, c'est quand même que l'ensemble de nos collaborateurs soient formés à la maladie, qu'il n'y ait personne sur le carreau et que tout le monde comprenne les mêmes enjeux, de quoi a besoin le malade et où on doit être, à quel moment, pour faire le bon soin, le bon professionnel, au bon moment, au bon endroit. J'ai essayé d'être très, 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 très rapide sur cette démarche, mais voilà globalement l'enjeu de cette démarche au sein de nos établissements. Elle s'appuie, et c'est une chance, sur plein de services supports, c'est-à-dire que LNA Santé bénéficie d'un pôle de recherche, d'une cellule innovation, d'un pôle de formation. Donc on peut bénéficier avec tous ces services supports d'un déploiement de cette démarche. Et je remercie l'ensemble des membres du COPIL. Donc on a un comité de pilotage qui permet de déployer cette démarche au sein de nos établissements. Donc ce COPIL, il est volontairement composé de collaborateurs représentatifs de terrain. Alors qu'est-ce que ça veut dire, c'est un COPIL représentatif? Ça veut dire qu'il est composé essentiellement de professionnels de terrain et tous les corps de métier sont représentés. De la maîtresse de maison à la responsable de soins, à la psychologue, à la direction, il y a un médecin, il y a un APA. On avait la volonté d'avoir un regard pluridisciplinaire autour de cette démarche. Donc pas que médical pour le coup. Et donc, dans la brique, si vous avez suivi un peu la présentation, il y avait cette fameuse thématique place des aidants. Alors, pourquoi on en parle aujourd'hui? Et après, je vais laisser la parole à Magali. Je voulais revenir un tout petit peu sur ce qui avait été dit l'année dernière. J'étais intervenue et, pour vous présenter un retour d'expérience qui s'appelait « Et si le Covid nous avait fait grandir ?» À l'époque, on avait fait en post-Covid des médias. Je me souviens, la salle était un petit en demi-jauge. Il y avait beaucoup moins de monde. On était en post-crise sanitaire et on avait décidé de faire un retour d'expérience. On avait visité plein d'établissements du groupe pour aller recueillir le témoignage de plus d'une cinquantaine de collaborateurs pour savoir comment ils avaient vécu cette crise sanitaire. Et donc, il y a plein de constats qui étaient ressortis de ce retour d'expérience. Mais un constat principal qui nous paraissait être urgent à débattre, c'était celui de la place des familles dans nos EHPAD. C'est-à-dire que les familles, pour rappel, ont été sorties des établissements pendant des semaines entières. Et il y a eu cet impact à la fois pour les familles qui étaient isolées chez elles, mais à la fois pour les résidents qui, finalement, avaient montré de la résignation, une certaine apathie. Les unités étaient effectivement plus calmes, mais ce n'était pas un calme qu'on aimait, ce n'était pas un calme d'apaisement, c'était un calme de résignation. Et c'est peut-être à ce moment-là où on a pu se dire, finalement, les familles, elles ont leur place dans nos accompagnements. Et quelle place demain on leur donne en post-crise, parce qu'elles avaient la volonté de réinvestir les lieux, et quelle place on est capable de leur donner. Donc, c'est tout l'enjeu qui s'est joué en post-crise. Donc, ça, c'était ce que je vous présentais l'année dernière. Et puis, depuis, on a avancé. On s'est déjà posé une vraie question. Alors, peut-être que vous n'êtes pas posé cette question, mais souvent, on parle des aidants. Alors, j'en entends depuis tout à l'heure, on parle des aidants. On parle des aidants, on le met dans un groupe. Il y a une espèce d'étiquette qui dit aidant. Et puis, finalement, quand on voit, moi j'ai pu travailler au domicile pendant très très longtemps et je travaille dans le médico-social et j'ai travaillé dans le sanitaire, en fait, qu'on soit en fonction du lieu où se trouve le malade, en fait, on n'est pas aidant de la même manière. Être aidant au domicile, c'est être aidant hyper vigilant, s'occuper, gérer les troubles du comportement, les troubles du sommeil, être fatigué, avoir besoin de répit. D'accord ? C'est ça un aidant du domicile, c'est celui finalement qui est le plus impactés par la pathologie. Les aidants, en tout cas les familles, c'est comme ça qu'on les appelle aussi, les familles, les aidants qu'on rencontre dans nos établissements, ils ont un autre profil. C'est souvent peu le conjoint, c'est peut-être parfois et le plus souvent l'enfant, la fille ou bien le fils qui va vouloir finalement participer activement à l'accompagnement de son proche. Donc là, on est dans une démarche proactive, on n'est plus dans du répit, on a la volonté de participer, de comprendre la maladie et de participer activement auprès des professionnels. Et c'est ce partenariat qui était désiré en se disant, finalement, la crise, elle nous a fait dire, les familles, il faut qu'elles reviennent, mais demain, si elles reviennent, elles doivent être partenaires. Donc voilà, c'était nécessaire qu'on refasse un petit historique pour que vous compreniez le pourquoi de ce guide et d'où il vient. Donc, dans nos établissements, bien évidemment, les aidants étaient déjà soutenus. Alors, il y a des groupes de parole, il y a des formations d'aidants, il y a des activités qui sont dédiées spécifiquement aux aidants. C'est des choses qu'on connaît, qu'on savait faire. Les aidants qui étaient intégrés à la vie sociale et la vie associative et la vie de l'établissement, ça s'était déjà fait avec les conseils de vie sociale, le conseil de vie sociale, la participation aux animations, certaines familles bénévoles, on l'a vu pendant le Covid. Donc finalement, aidants soutenus, aidants intégrés, on savait de quoi on parlait et c'est une expérience qu'on a déjà chez Elena. La volonté du post-Covid, en tout cas l'urgence du post-Covid, c'était de dire, voilà, maintenant c'est un autre qualificatif qu'on va mettre aux familles, c'est les rendre partenaires. Partenaires, ça veut dire on travaille ensemble, collectivement, une triangulation autour du malade. Donc pour ce faire, voilà, on a décidé de travailler ensemble avec le COPIL et je vais laisser la parole maintenant à Magali. Je trouvais que c'était intéressant de faire tout l'historique de ce guide pour pas qu'il vous soit présenté à brûle-pourpoint, mais je laisse Magali vous expliquer comment on a construit ce guide.
Merci. Bonjour. Donc en fait, pour construire ce guide, pour revenir juste sur ce que Laure disait, c'est qu'effectivement la notion de partenariat, surtout dans les établissements, c'est de quitter cette posture de il y a le soignant qui est sachant, et puis il y a l'accompagnateur, il y a le proche, il y a la famille, il y a l'ami qui vient et qui ne sait pas, qui est en difficulté aussi, parce que même si à domicile, c'est vrai que c'est très compliqué d'être aidant, et bien dans les EHPAD, dans les résidences, c'est très compliqué aussi d'être proche, de continuer à venir visiter son proche, à venir échanger avec lui, entrer en relation. Donc pour construire ce guide, en fait, on est parti d'une enquête qu'on a réalisée au sein de différentes résidences, à partir d'un questionnaire où on posait plusieurs questions aux familles, aux proches, pour savoir quelles étaient leurs difficultés et surtout quels étaient leurs besoins pour se sentir à l'aise dans la rencontre, pour continuer à venir voir leurs proches, pour se sentir à l'aise face à cette maladie, face aux troubles qui ont été décrits par les différents intervenants dans la première partie. Oh, t'as changé les slides. Donc en fait, l'idée, c'était vraiment de réaliser, à partir de tout ce qu'on a recueilli sur ces questionnaires, en fait, on s'est dit, il faut en faire quelque chose pour accompagner, mais presque pour former. Madame, tout à l'heure, vous parliez des formations. Effectivement, ça manque, mais ça manque aussi au sein des résidences. Et donc l'idée, c'était de pouvoir proposer des outils, un outil principalement, réunissant... Au fil de l'eau, quand on accompagne des familles, alors moi je travaille dans une résidence, j'ai la chance d'être à temps plein, donc j'accompagne aussi beaucoup les familles, et au fil de l'eau je donne des petites pistes, des petites clés pour maintenir la relation, pour adopter les bonnes attitudes. Mais au fil de l'eau, il se passe plein de choses, et quand on est proche, on a aussi sa vie à côté, on a aussi la souffrance liée au fait de voir son proche comme ça. Et ça peut être difficile en fait de retenir toutes ces informations, de pouvoir les appliquer, enfin... Donc là, je trouve que c'est intéressant de pouvoir proposer un guide où j'irai me mettre dedans de temps en temps, puis je reviendrai quand j'en aurai besoin, en fonction de l'évolution aussi, de comment progresse la maladie, comment évolue mon proche au fur et à mesure des mois, des années. On a différencié en fait deux choses dans le guide des aidants, la partie maladie et puis vous allez voir après la partie trouble du comportement. Une maladie, pour mieux l'accompagner, pour mieux l'appréhender, effectivement, il faut la comprendre. On voit bien qu'il y a différentes fonctions. Alors là, c'est pareil. Tout à l'heure, professeur Béru parlait des fonctions de la cognition sociale, des fonctions exécutives. On parle de fonctions cognitives. L'altération de ces différentes fonctions, elle impacte la personne forcément dans sa relation à l'environnement et dans sa relation aux autres, donc aux proches. Elle affecte tout ça et on voit bien que ce que disait professeur Béru, c'est qu'il n'est plus, lui, en capacité de s'adapter à nous. Donc c'est nous, proches, famille... Amis, c'est à nous de nous adapter en fait et d'aller le rejoindre là où il est dans ses difficultés. Et pour ça, en fait, il faut comprendre ce qui se passe. Donc, dans comprendre la maladie, on balaye un petit peu les différents troubles par lesquels peut passer la personne. On les définit assez simplement. Hein. Et puis, on donne des guides, des pistes, des petites astuces qui fonctionnent. Par exemple... sur la mémoire, alors je le citais aussi en exemple plus loin, mais par exemple sur le langage, vous avez des personnes qui ne vont plus trouver leurs mots, qui vont être en difficulté. On définit d'ailleurs les différentes. Enfin, on a donné du lexique. Moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant de se dire qu'on n'a pas. On n'a pas à se dire je ne donne pas de niveau de compétence parce qu'en fait, la personne en face, elle n'est pas thérapeute, elle n'est pas aide-soignante, elle n'est pas. Si. En fait, tout le monde devrait accéder à ce lexique-là. C'est des mots que vous allez entendre par les professionnels quand vous rencontrez des neurologues. Et donc, je trouve que c'est super intéressant de pouvoir le faire. Et puis après, dans les petites astuces, ce qui me faisait sourire, c'est que souvent, on est sur déjà l'acceptation. Hein, accepter que la personne, elle est peut-être un peu moins axée au langage. Pouvoir la guider en utilisant des phrases simples, en parlant lentement, en posant des questions peut-être de plus en plus fermées, mais qui permettront de répondre par oui ou par non. C'est des petites choses qui paraissent très simples comme ça, mais dans notre quotidien, on ne les utilise pas spontanément, ou en tout cas pas en conscience. Et là, on va devoir le faire effectivement en état de conscience, hein, de mesurer l'impact que ça a. Donc, bien sûr, ce que disait aussi le professeur Véru, hein, sur les différents troubles liés à la cognition sociale, c'est que derrière peuvent apparaître des troubles du comportement qui vont être une communication en soi. Hein, c'est-à-dire que moi, je prends toujours cet exemple, quand on n'est pas écouté, on tape du poing sur la table. J'adore la langue française parce qu'elle a beaucoup d'expressions comme ça qui sont très parlantes. Il faut imaginer qu'une personne, par exemple, qui s'agite, c'est une personne qui a peut-être l'impression de ne plus être entendue ou plus être comprise, et c'est son corps qui va venir parler. Quand je ne vais pas bien, il n'y a pas de raison que j'aie le sourire, en fait. Quand j'ai peur, peut-être que je vais avoir effectivement des manifestations qui vont montrer que, et dont il va falloir en tenir compte, parce qu'avec mes mots, peut-être je n'arrive plus à dire j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, ou tout simplement parce que... Il y a des peurs qui ne peuvent pas se dire, en fait. Il y a des peurs, quand vous êtes désorienté, que vous ne savez plus ce que vous avez fait il y a 5 minutes et que vous ne savez pas ce que vous allez faire dans 5 minutes, il y a une espèce de vide. Alors, par exemple, imaginez-vous, je pense que pour ceux qui ont des voitures, c'est déjà arrivé, garer votre voiture sur un parking, sortir du magasin, la chercher et ne pas la trouver. Les 5 premières minutes, c'est plutôt drôle. Et puis très vite, on a une espèce de bouffée comme ça qui monte. Alors nous, on peut nommer que la bouffée, elle est liée au fait qu'on ne retrouve pas notre voiture. Mais finalement, dans les maladies neuroévolutives, on a des peurs comme ça qui surviennent et on ne sait pas trop pourquoi. Donc, comprendre les troubles du comportement, ça va vraiment nous aider à adapter une attitude, à adapter une communication. On parlait de l'empathie tout à l'heure, c'est tout à fait ça, en fait. C'est de comprendre l'autre dans ce qu'il vit, pouvoir adapter, mettre les bons mots. Et ça a vraiment une action à la fois de prévention dans l'apparition de troubles, puisque finalement, si je suis compris, entendu, écouté, je n'ai pas besoin de le manifester davantage. Et ça a un rôle de prévention dans l'aggravation des troubles aussi. Et éviter finalement, là encore, hein, je prends des exemples qui nous parlent à nous, parce qu'on n'est pas désorienté, donc on ne sait pas ce que vivent les personnes. Mais si vous parlez, là, vous vous mettez à parler entre vous, il y a un brouhaha, donc pour vous entendre, vous allez parler encore plus fort, et puis pour vous faire entendre, vous allez parler encore plus fort. C'est un petit peu ce qui se passe. Quand on a des troubles du comportement, c'est que si j'ai un trouble et que l'autre en face ne comprend pas, par exemple, que j'ai mal au ventre, je vais accentuer mon trouble jusqu'à être entendue, comprise. Donc, il y a vraiment cette importance-là d'adapter la bonne attitude et d'avoir une bonne écoute pour éviter finalement que le trouble s'aggrave. Donc, comme pour tout à l'heure la maladie, on a essayé de balayer un petit peu les différents troubles qu'on pouvait trouver avec une définition à chaque fois qu'on veut assez simple, assez accessible. Et puis des actions à mettre en face. Alors, encore une fois, c'est des guides. Hein. C'est pas il faut faire, il faut pas faire, parce qu'on est tous humains et que des fois on est envahi aussi nous par nos propres émotions et on ne sait pas forcément. On agit assez spontanément. Mais en tout cas, c'est des guides, des choses qui fonctionnent. C'est encore une fois, hein, c'est de l'humain, donc ça fonctionne de temps en temps, ça fonctionne pas toujours. On a essayé de regrouper un petit peu tout ce qui pouvait être. Et puis, je crois que l'objectif principal, alors je vois qu'il y a des aidants dans la pièce, donc l'objectif principal, c'est de continuer à garder des bons moments, hein, quand on vient à passer un bon moment, à pouvoir ressortir de la résidence en se disant « Oh là, aujourd'hui, c'était sympa, c'était agréable, j'en garde un bon souvenir », parce que même si le proche est malade, on continue à vivre avec lui et à avoir des souvenirs avec lui. Et pour ça, il y a le savoir-être. Alors le savoir-être, c'est des petites choses, hein, par exemple, quand vous allez, alors je prends l'exemple, imaginons, je vais voir mon père qui commence à plus trop me reconnaître, peut-être que plutôt que de lui dire, tu te souviens qui je suis, de me présenter et dire, voilà, je m'appelle Magali, je suis ta fille. C'est vrai que demander à l'autre de nous reconnaître, ça peut être rassurant, hein, ça peut vouloir dire, au moins il se souvient de moi, il pense, mais on n'est pas juste un prénom et puis on n'est pas juste une fonction. Une personne, c'est aussi des émotions, une voix, une intonation, des comportements, des souvenirs qui vont se réveiller par d'autres choses. Et finalement, dire à mon père, je suis Magali, je suis ta fille, ça lui permet de me dire, oui, je t'ai reconnue. Donc ça me fera énormément de bien à moi et à lui aussi. Ou bien de dire, ça me fait plaisir de te voir, ma petite. Et puis comme ça, chacun y trouve son compte. Ça, c'est des petites astuces comme ça qu'on passe. Hein, y en a plein d'autres. Et puis sur les activités aussi, il faut savoir que plus on perd des capacités cognitives, plus c'est difficile d'initier des choses et plus ça va être difficile pour vous dans l'accompagnement d'initier aussi, enfin d'être dans du vide de relation. Du 1 pour 1, relation duel, on est assis côte à côte et on se regarde dans le blanc des yeux, c'est insupportable très vite. Donc l'idée, c'est de pouvoir s'appuyer sur des activités en lien avec ce que, vous, enfin, ce que les proches connaissent de leur époux, de leur père, de l'histoire de vie et des goûts. Et puis nous, on peut, par exemple, si ma mère aimait entretenir son jardin et faire des fleurs, peut-être que je peux proposer de faire une activité, ce qu'on appelle Montessori, autour de composition florale avec des fleurs artificielles qu'on pique dans de la mousse. Je suis à la fois en lien avec l'histoire de vie que moi, proche aidant, je connais, et en même temps, je me saisis des activités qui sont possibles et qu'on me propose ici pour, encore une fois, juste servir de médiation à la relation. Être dans le vide de la relation, c'est compliqué. Voilà. Conclusion ? Non ?
Donc peut-être ce que je voulais rajouter sur le fameux questionnaire, en fait, qu'on avait envoyé, les familles, elles demandaient, enfin, leurs attentes, c'était quand même de comprendre la maladie. Donc, il y avait quand même cette notion de formation. J'entendais tout à l'heure une question pertinente de dire, moi, j'ai été 5 fois en formation, puis derrière, plus rien. Pour avoir fait de la formation des dents, je trouve que c'est pertinent. Effectivement, ça a du sens. Donc, elle demandait avoir un minimum de connaissances qu'on a donné dans le guide, mais elle demandait surtout comment je dois réagir. Et en fait, c'est ce qu'on a essayé de faire dans Savoir-être, les petites astuces, parce que les questions des proches étaient de dire, par exemple, quand je pars, comment je réagis ? Est-ce que je lui dis que je pars parce que je sens qu'il va être un peu stressé ? Ou bien, qu'est-ce que je dis quand il me demande sa mère, alors que sa mère est décédée il y a 20 ans ? Enfin, c'est comment je me repositionne et comment je communique. Donc, on a essayé à chaque fois de faire la dichotomie de voilà le trouble et voilà comment on se comporte. Donc, on a essayé, en tout cas, de répondre au mieux aux attentes des aidants qui avaient été interrogés, en tout cas. Donc, voilà le guide que je vous montre, mais que je ne diffuse pas, puisque c'est noté. Pour le moment, la diffusion, elle reste en interne. Alors, je vous fais bisquer un peu, parce que peut-être ça pourrait être intéressant pour vous. Donc, l'idée, pourquoi elle reste en interne ? Il y a plusieurs volontés à ça. C'est que déjà, on ne veut pas que ce soit un guide qui soit distribué comme ça. On voudrait que ce soit un guide qui soit ciblé, avec des aidants identifiés qui sont en difficulté. C'est-à-dire qu'il y a un aidant, je repère, et donc moi, en tant que soignant ou en tant que professionnel, je vais lui expliquer, et je suis déjà dans un partenariat quand je le présente, ce guide. Et on va le lire ensemble et je vais lui donner, parce que c'est déjà un partenariat qui débute. Donc voilà, ça, c'était la volonté d'une diffusion vraiment ciblée. Et puis la deuxième, c'était que derrière, on l'a construit en copile. Et je vous ai parlé du partenariat famille-professionnel et que la volonté, c'est qu'on ait un comité de relecture avec un ensemble de familles, d'aidants, mais aussi d'autres professionnels, qu'on puisse relire ce fameux guide, c'est la première édition, et qu'on puisse le co-construire derrière ensemble pour avoir une édition 2022 qui soit peut-être avec des ajouts, avec d'autres attentes, d'autres besoins. On va le finaliser en 2022. Donc voilà, on est relativement content que ce guide soit sorti. Il aurait dû sortir le 6 octobre, journée des aidants. Il est sorti le 7, mais on est ravis de pouvoir commencer à le distribuer. Une autre chose dont on a pris conscience, c'est que ce guide, finalement, il pouvait être aussi à destination des aidants du domicile. En tout cas, comment se comporter et que je comprends les troubles. Peut-être pas sur la partie des visites, mais en tout cas sur la partie compréhension. Donc peut-être que ce sera un guide à destination des aidants du domicile. Et puis, ça peut être aussi un guide pour nos professionnels et les nouveaux collaborateurs. C'est-à-dire, je viens à l'attractivité des métiers dans le médico-social, c'est j'y connais rien dans la maladie, tiens, essaye de lire ça, et déjà, tu auras un petit compte-rendu de ce que c'est que la maladie et comment je me comporte. Voilà, donc c'était pour terminer. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Laure Joitel et Magali.